Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Startup Mafia. Je suis Kamel Zeroual, investisseur dans la tech et entrepreneur depuis toujours. J'ai la chance dans mon métier d'accompagner des sociétés qui vivent des trajectoires incroyables en quelques années. Je côtoie des entrepreneurs remarquables bien sûr, mais aussi des talents, des femmes et des hommes tout aussi extraordinaires qui changent la vie de ces boîtes. Je voulais à travers ce podcast décortiquer le succès de ces startups qui font la une de tous les journaux en mettant en lumière le travail colossal que cette garde rapprochée réalise. Nous écouterons leur parcours, leurs histoires, le rôle qu'ils jouent au quotidien. Une saison sera l'objet d'une seule startup, Blablacar, Swile, Doctolib et bien d'autres, et chaque épisode sera l'occasion de découvrir et de mettre en lumière une personne clé. Son CPO, son Head of Sales, son directeur marketing, son chief of staff, qui ont rejoint l'aventure et qui contribuent de manière instrumentale à faire grandir cette startup et à en faire un succès. Tous ces angles, tous ces points de vue, nous donnons une lecture différente de comment ces startups arrivent à scaler grâce à ces talents. Excellente écoute à tous. De passer du temps avec toi. On est dans les bureaux d'Alan, quai de Valmy. On va passer un petit moment ensemble. Merci de prendre du temps. Et puis la première question pour que tout le monde situe un peu qui tu es chez Alan, je te laisse te présenter dans les grandes lignes dans un premier temps.
Donc je m'appelle Gabriel. Je suis chez Alan depuis mars 2020.
Ok.
Et aujourd'hui, j'ai un peu une double casquette. Je suis le lead de la business unit qui s'appelle Better Life, qui okay. se concentre sur les services de santé en plus du cœur de métier assurantiel d'Alan. Et donc ça, c'est une unité où il y a 70-75 personnes. On compte pas forcément de façon très très précise parce que on a une organisation assez fluide, on pourra plus en parler. Mais le but, c'est d'essayer de remplir la mission de partenaire de santé. On veut passer d'un rôle d'assureur qui vient après les soins à celui de partenaire qui accompagne avant, pendant et après les décisions, les histoires de santé qu'on a les uns et les autres. Et ma deuxième casquette, c'est celle de product lead, donc à coordonner les équipes produits. Chaque boîte a un peu une définition différente des équipes qui constituent le groupe des équipes produits, mais en général, il y a un cœur commun. Donc c'est les PM, les designers, les data scientists, les chercheurs, user research. Et nous, comme c'est aussi très proche du cœur de métier, on a inclus les équipes d'assurance, les équipes d'opération, et puis certaines des équipes de marketing, en particulier le product marketing.
Bon, ça fait plein de casquettes à explorer. Je suis content parce que on associe souvent Alan à une excellence expérientielle, en tout cas produit, qui est vraiment très poussé, et donc que tu sois au cœur de ces sujets-là, je pense que ça va être intéressant de comprendre. Alors même si l'ADN, je pense, des fondateurs, il joue, on en parlait en intro, il joue beaucoup. Je pense que ça va être intéressant de comprendre jusqu'où en fait cette place dans l'organisation est clé et comment t'es arrivé là. Donc peut-être pour prendre un peu de hauteur et voir un peu ton parcours. C'est quoi ton setup de départ? Où est-ce que t'as grandi? C'est quoi tes premières années? Ça ressemble à quoi?
Moi, je suis né à Nancy, dans l'est de la France.
Ok.
Dans une famille de 4 enfants. Je suis l'aîné, mais les 3 autres sont arrivés assez vite. J'avais à peine 5 ans quand mon dernier petit frère est né. Et j'ai vécu jusqu'à 5 ans à Nancy, et puis ensuite de 5 ans à l'âge de 10 ans en Angleterre.
Ok.
Mes parents ont déménagé à Nottingham. Ce qui est un peu la Lorraine de l'Angleterre pour plein de raisons, et parce que mon père travaillait dans l'industrie de la fonte, voilà, où il y avait des usines. Donc j'ai passé mon primaire là-bas, et puis on est rentré. J'ai fait mon collège à Nancy, puis mon lycée en région parisienne. J'ai fait des études d'ingénieur, donc j'ai fait une prépa en banlieue parisienne à Versailles, et puis ensuite une école d'ingénieur au sud de Paris, centrale.
Ouais.
Et j'ai terminé mes études en Californie, à Stanford.
Ok. Et pourquoi Stanford? Pourquoi les US très tôt?
Ouais, j'étais assez attiré par le fait de faire une partie de mon parcours à l'étranger.
Okay.
Il n'y avait pas nécessairement de porte fermée ou ouverte à un seul pays. C'était plutôt de pouvoir découvrir autre chose que simplement le cursus français. Et quand j'ai été accepté, c'était un peu difficile de refuser, quoi. Donc,
Parce que tu rentres à Stanford en quelle année? C'est quoi? C'est sur un MBA? C'est sur un échange?
Non, c'était sur un MS, un Master of Science. Donc, le dernier cycle où l'école française reconnaît un peu une certaine équivalence et les Américains se disent qu'on part pas de zéro, quoi.
Ok. Et donc ça, c'est avec un, plutôt en computer science ou sur quel?
Non, j'étais dans un cursus plutôt de, enfin, le secteur global de la recherche opérationnelle. Donc les MATAP, mathématiques appliquées à la logistique ou à des sujets concrets d'industrie.
Okay.
Et le département ça s'appelait Industrial Engineering and Operations Research. Il a été renommé entre-temps Management Science and Engineering, je crois.
Ok. Et donc et là, tu as une idée très claire de ce que tu veux faire ou tu es en mode test and learn et tu es aux US, tu kiffes
Ouais, je pense que j'avais une idée... je pensais avoir une idée un peu précise de ce que je voulais faire avant de commencer mes études et puis c'est devenu de plus en plus flou au fur et à mesure des années, des stages et des expériences. J'avais fait une croix sur le secteur de la finance de marché. J'avais fait un stage, j'avais beaucoup aimé mon stage et puis pour plein de raisons, j'avais décidé que c'était pas là-dedans que je voulais me lancer. Mais non, j'avais pas d'idée précise pendant pendant les années à Stanford et c'était un moment d'ébullition parce que je suis arrivé quelques mois après le lancement de l'iPhone et quelques mois avant le lancement de l'App Store et puis de l'ouverture de la possibilité d'une économie de développeurs de vendre des apps sur l'iPhone.
Et comment tu vis le truc là à ce moment-là? Tu te rends compte de ça? Tu vois le truc arriver? Enfin, en plus Stanford, t'es au cœur de beaucoup de choses.
Ouais, c'est assez présent assez vite. Enfin, les cours se nourrissent beaucoup de l'actualité de la Silicon Valley. Au fur et à mesure, on comprend très vite qu'il y a une grosse perméabilité entre les profs, les boîtes. Le campus, il est à 1 kilomètre de là où Facebook est installé. Donc Facebook, à l'époque, c'est 300 personnes. Facebook recrute activement sur le campus, on entend plein d'histoires. Et puis, il y a des élèves qui montent des applis et qui drop out parce que les applis cartonnent, quoi. Et ces histoires-là, on les entend vraiment. Donc, c'est l'environnement fait qu'on en parle beaucoup. Et moi, je me retrouve avec un ami qui était... un copain de prépa qui se retrouve en même temps que moi à Stanford, qui était, lui était dans le département de computer science, et assez rapidement on commence à échanger pas mal d'idées sur qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça.
Ok. Voilà,
le premier et puis on a l'idée brillante et géniale de créer une appli pour faire des règlements de comptes d'argent entre amis français qui sont sur le campus. On se dit tiens, ce serait quand même marrant de faire une appli à base de ça parce qu'on est toujours à se devoir $20 ou $30.
Donc un Lydia avant l'heure.
Ouais, Tricount plutôt, je pense.
Ah, okay.
Voilà, c'était plutôt l'idée de se dire, est-ce qu'on peut facilement savoir qui doit quoi à qui au bout de 5 repas, 2 bières et un week-end de ski.
Okay.
Voilà. Et finalement, on l'a jamais construite, mais ça commence l'idée de se dire, tiens, en fait, on aime bien discuter d'idées tous les deux.
D'accord. Et sur des sujets de flux en plus.
Ouais, on a discuté de tout et n'importe quoi. On a fini par emménager ensemble. On a quitté le campus pour la deuxième année. On est allé à San Francisco et on a eu, je sais pas, 15 mauvaises idées de trucs à commencer ensemble parce qu'on se disait que c'était une bonne idée de le faire. Et voilà. Et je pense que ça a vraiment fait mouliner sur le concept que les gens qui montaient des boîtes, en fait, ils étaient pas fondamentalement différents de nous. Ils étaient aussi en train de chercher. Ça a vachement fait accélérer l'idée qu'on pourrait nous-mêmes
y participer.
Ouais. Mais les mauvaises idées, ça a été aussi un système de stockage de fichiers. Et puis après, on a vu qu'il y avait une boîte qui s'appelait Dropbox qui démarrait à ce moment-là. On s'est dit, merde, ils ont 3 mois d'avance, ça sert à rien, faut pas qu'on suive.
3 mois, c'est énorme.
C'était énorme, voilà. Ils étaient à l'époque au moins 3, je crois. Mais on avait accès, je pense, vraiment à l'info qui sortait, quoi.
Ouais, dans l'épicentre de la création.
Ouais. C'était assez impressionnant et c'était surtout pour moi très différent de l'expérience qu'on avait eue en France où je pense qu'on était déjà peut-être parce que le parcours fait que les gens terminent la prépa, arrivent en école un peu fatigués, donc peut-être se concentrent un peu moins sur leur cursus scolaire, mais aussi les rapports avec les professeurs n'étaient pas toujours aussi faciles. Voilà. Après, moi, j'étais, pour payer ses études à Stanford qui sont loin d'être gratuites, on donnait des cours, on était assistant, enfin chargé de TD, l'équivalent de ça. Donc ça créait aussi pas mal de liens avec le corps professoral. Et on voyait que eux étaient en contact avec l'industrie assez régulièrement.
Ouais, voilà. C'est très business en fait.
Ouais, c'est très très business.
On n'est pas, c'est pas une sphère. Enfin, l'éducation est un business.
Ouais, et pour cette université en particulier, les portes sont très ouvertes. Les gens vont faire 5 ans d'un côté, 5 ans de l'autre, reviennent, donnent des cours. Et voilà, un de mes profs en deuxième année avait monté ou participé au montage de plusieurs boîtes. Donc le cours d'entrepreneuriat, c'était assez concret, avec surtout des rendez-vous et des discussions avec des entrepreneurs plutôt que des formats, des diagrammes, des frameworks et des trucs comme ça.
Ouais, donc pas beaucoup, pas plus sur la pratique que sur la théorie, quoi.
Assez pratique sur certains sujets, en tout cas.
C'est cool. Et donc tu commences à faire au-delà de ton job de chargé de TD, là, tu commences à bosser dans les startups, tu commences à builder des trucs ou tu...
En fin de deuxième année, je participe à l'écriture d'un business plan de parce qu'un des cours, c'était, il faut créer une boîte, et puis la manière dont vous serez noté, c'est de savoir si le business plan est accepté par un panel de VC qui vont juger, qui okay, c'est un peu un mini démo day. Finalement, c'est une boîte qui voulait dématérialiser les essais cliniques et en particulier le reporting des résultats d'essais cliniques où il n'y avait pas besoin de biopsie ou d'équipement médical. Donc les gens venaient à l'hôpital simplement pour remplir un questionnaire qu'ils pouvaient remplir sur leur téléphone portable. Donc c'était un peu en 2008 moderniser ça. Finalement, cette boîte, elle a été créée. Entre-temps, moi, j'ai décidé de prendre l'air et d'aller voyager pendant 8 ou 9 mois, donc j'ai un peu laissé tout ça de côté.
Okay.
Mais dès la fin des études, c'est un peu l'idée de jouer avec des idées où on devait parler du business plan, on devait parler du marché, on devait parler de trucs comme ça.
Donc tu te fais un petit break post-études pour voyager.
Ouais, voilà, c'est ça. Et après, je prends une série de décisions avec énormément de vista stratégique, comme on va le voir. Je décide d'accepter le job qui a le sign-in bonus le plus élevé pour rembourser les 8 mois de voyage.
Ah,
donc je reviens à Paris.
C'est pragmatique, en fait.
Ouais, très pragmatique. Et j'ai bossé dans un cabinet de conseil pendant un an à peu près.
Ouais.
Où c'est une expérience hyper enrichissante et plein de bonnes choses à
dire. Dans quel cabinet?
Le BCG.
Ouais.
Avec des cas plus ou moins intéressants pour moi et plus ou moins durs, mais en tout cas tous enrichissants parce qu'ils m'ont appris pas mal de choses que j'utilise encore aujourd'hui.
Ok, donc de la méthode.
Ouais, de la méthode. Je pense que c'est vraiment de la méthode et puis la compréhension que, en fait, dans tous les métiers, il y a une partie de production et une partie de vente. Alors dans le conseil, la partie de vente, c'est les partenaires qui s'en occupent en expliquant pourquoi à la fin d'un cas, faut vendre le cas suivant. Et il y a toujours cette logique de quoi est-ce que le client a besoin. C'était un peu aussi comprendre ce truc-là. Et puis ensuite, donc cet ami de Stanford était entre-temps rentré en France, avait commencé un boulot dans une boîte dans laquelle il se plaisait, mais où il se plaisait pas forcément à fond. Et on s'était dit, ah tiens, pourquoi est-ce qu'on montrait pas une boîte dans 6 à 8 mois? On a eu une discussion très très cadrée. On se dit, ok, dans 6 à 8 mois, on démissionne tous les deux, on monte une boîte et on se donne 6 à 8 mois pour trouver une idée. Voilà. Je crois qu'une semaine après, il m'a rappelé en disant, j'ai démissionné parce qu'en fait, j'avais plus que ça en tête. Donc maintenant, tu me rejoins quand tu veux. Et je suis parti un peu en catastrophe pour monter une boîte avec lui.
Et c'est qui Stan? Il s'appelle comment?
Stanislas Pollu.
Okay.
Donc c'est avec lui qu'on a décidé de monter une entreprise à la fin de 2010.
Ok.
Voilà. Avec aucune idée de ce qu'on voulait faire, aucune idée de à qui on allait le vendre. Voilà, des technologies qui à l'époque paraissaient prometteuses, le QR code qui nous semblait être un truc intéressant.
Qui a mis un peu de temps à décoller.
Qui a mis beaucoup de temps à décoller. Merci le Covid, ça a bien accéléré les choses. Le NFC dont on pensait qu'il allait révolutionner la manière dont les gens utilisaient leur téléphone portable. C'est l'époque où les boîtes qui cartonnaient, c'était Bump, la carte de visite virtuelle, un truc comme ça.
Je m'en rappelle.
Donc on a bossé sur la carte de fidélité virtuelle. On essayait de convaincre des restaurants d'accepter notre système de carte de fidélité pour que tout puisse être dématérialisé.
Donc lui, il part, il arrive à te convaincre de le rejoindre.
Je suis parti un peu en catastrophe.
J'ai
démissionné à un moment où je pense que c'était pas vraiment une bonne idée financière, ça c'est sûr, mais surtout, rapidement, en un mois, quand même.
Ok. Et donc, vous commencez à explorer plusieurs use cases ou il a
déjà... Ouais, on explore plein de trucs. Finalement, un truc qui accroche un peu, et avec lequel on obtient un premier passage dans l'incubateur Seedcamp à Londres.
Ouais.
On n'obtient pas d'investissement de leur part, mais ils commencent à garder un peu un œil sur nous. On monte une petite équipe, on essaie de vendre à ces magasins la carte de fidélité dématérialisée. C'était à l'époque où Groupon cartonnait. Alors maintenant, je comprends un peu plus clairement. Une boîte qui faisait de l'acquisition, qui cartonnait. Nous, on essayait de faire de la fidélisation avec un ordre de grandeur de gain différent. Et nous, on comprenait pas pourquoi ça allait moins vite. On avait aucune expérience en exécution. On faisait du porte-à-porte. Enfin, moi, je faisais du porte-à-porte pour convaincre des magasins.
Ah ouais, voilà. D'accord. Donc, t'es passé côté sales, ça.
Dans la boîte, Stan a toujours été celui qui codait et celui qui était capable de mettre en prod très rapidement. Et on a rapidement divisé. Donc, je pense que c'est un peu Le cofondateur qui code pas, c'est celui qui fait tout le reste, que ça soit des décisions produits quand tu as besoin d'en prendre, ou alors des sales, ou alors des
chief everything officer.
Voilà, exactement, le janitor. Et voilà, on monte une petite équipe, et puis ça avançait, mais je pense que ça avançait pas super super vite. Et à côté de ça, un autre projet qui émerge, sur lequel on s'excite assez vite, c'est la techno d'agrégation de photos. Toutes les plateformes photos partageaient leurs photos. C'est un peu une époque différente, mais on n'avait pas encore compris qu'Instagram allait être un gagnant. Il y avait une douzaine de plateformes photos, PicPlease, Mobly, etc. Et beaucoup de ces photos étaient partagées. C'était le début du contenu généré par les utilisateurs.
Ouais.
Et nous, on se dit qu'il y avait une opportunité d'agréger, de classifier, d'analyser toutes ces données pour des parties tiers. Donc, on crée une appli. Alors les noms, ça s'est appelé Crowd, après ça s'est appelé Teleported, après ça s'est appelé Totems, mais le modèle c'était toujours autour de l'agrégation en grande quantité de photos, l'analyse de ces données-là, et puis au fur et à mesure, un business model c'était le début du marché d'accès aux influenceurs, donc on avait une façon assez analytique de découvrir des personnes qui, quand elles publiaient des photos, recevaient beaucoup d'engagement de certaines audiences qui pouvaient être intéressantes pour des annonceurs, donc voilà, donc ça c'est le produit qui a finalement pas mal marché, qui s'appelait Nitrogram.
Vous avez levé de l'argent, c'est vrai?
Ouais, on avait levé de l'argent. On a levé de l'argent avec Seedcamp aux US, au UK, SV Angel aux US,
ouais.
Et puis quelques angels. Et on a continué à développer ça en France, et puis ensuite, à partir de 2014, aux États-Unis.
D'accord.
Donc, on est parti aux États-Unis au début 2014. Et à un moment un peu de pivot pour la boîte, où la question c'est, ok, on a compris qu'on a un modèle, maintenant comment est-ce qu'on le scale, est-ce qu'on augmente énormément la force de vente, est-ce qu'on change le modèle de vente pour aller plutôt, on vendait à des agences, à des marques, on vendait à n'importe qui, on savait pas encore, on n'était pas très stratégique là-dessus, mais l'idée c'était de savoir si on levait plus pour accélérer ça, et dans les discussions qu'on a eues à San Francisco sur les options, c'est pareil, il y a un écosystème très fluide entre les discussions d'investissement, d'acquisition, d'acquihire, etc.
Donc, ouais.
Ce qui a commencé comme une discussion d'investissement s'est transformé en une introduction à des entreprises qui étaient intéressées par récupérer une des parties de la techno ou surtout l'équipe, etc. Et on s'est retrouvé un peu trois mois de discussions hyper intéressantes avec plusieurs boîtes là-bas, chez Stripe. Voilà.
Donc Stripe veut racheter.
Et en fait, on connaissait l'équipe de Stripe d'assez longtemps parce qu'on avait été les premiers à les utiliser quand eux s'étaient lancés en Europe.
D'accord.
On avait eu accès aux produits très très tôt à leur lancement en Angleterre. Et donc, on connaissait bien l'équipe. Et eux, quand ils ont compris qu'on avait des discussions qui n'étaient pas toutes de lever de l'argent, mais qu'il y avait une possibilité que l'équipe cherche à être rachetée, nous ont proposé de les rejoindre.
D'accord. Surtout pour l'équipe, pas pour le...
Ouais, surtout pour l'équipe. Ouais. Sur la techno, on avait eu des idées et des échanges avec eux sur la manière dont leur API d'abonnement fonctionnait. Donc, on avait pas mal contribué à ça et je pense qu'on était relativement proche de certains sujets. Mais ce qui a été surtout pour eux intéressant, c'était l'équipe.
Ok. Et donc, Stripe, à ce moment-là, c'est quelle taille de combien de personnes?
140, 150 personnes.
Ah, c'est tout début alors.
Ouais, même. C'était assez petit. Ouais. Ouais.
Ok.
Il y avait... c'était une histoire assez rigolote. Ils nous ont rencontrés, on a eu des interviews, puis ils nous ont dit non, puis ils nous ont dit oui. Là-dedans, il y a plein de personnages un peu rigolos qui se connaissaient les uns les autres. Un des profs de CS de Stan connaissait un des fondateurs de Stripe, et quand par hasard ils se sont rencontrés, le prof a dit au fondateur de Stripe, là je crois que vous faites une erreur de dire non, ça a pas mal aidé à changer.
C'est vrai?
Ouais,
ah ouais, il y a eu des rebonds.
Ouais, c'était... ça se joue à pas grand chose. Je pense que la leçon là dans tout ça, c'est que les relations personnelles, ce qui fait à mon avis le côté un peu unique de cet écosystème là-bas, c'est que c'est la théorie des jeux répétés où ils sont tellement dans des imbrications et des couches de relations sur des années et des années que les gens ont plutôt intérêt à coopérer, quoi. C'est ce qui crée.
Ouais, c'est un jeu à long terme.
C'est vraiment un jeu à long terme et à multiples répétitions, quoi.
Ouais.
Donc voilà, on se retrouve chez Stripe à peu près 150. On bosse assez rapidement ensemble sur l'extension de l'API aux méthodes de paiement qui sont pas les cartes bleues, parce que Stripe a surtout démarré aux États-Unis.
Donc tu restes en binôme avec Stan.
On s'est retrouvé assez vite. On a commencé à atterrir chacun dans notre coin. Moi sur le développement international et Stan sur une plateforme, enfin une mise à jour de la plateforme centrale qui a finalement pas abouti, où il bossait avec un des, enfin avec le CTO de Stripe. Et finalement, on se retrouve assez vite sur un problème que moi, je pense que l'Europe a rencontré, qui est que les méthodes de paiement, c'est pas le même mix. La carte bleue, elle est pas ultra dominante. Il y a certains pays où il y a des méthodes de paiement complètement différentes. Les États-Unis n'ont jamais entendu parler. Et l'API de Stripe, qui est très élégante, qui est vraiment reconnue comme précise, fine,
efficace.
Et subtile, efficace, ouais. Elle est pas complète, quoi, parce qu'elle arrive pas à comprendre que certains virements bancaires se passent différemment, certains paiements de cartes se passent différemment. Voilà. Donc on fait ce travail-là, et ça nous a pas mal donné d'opportunités à Stripe ensuite pour monter, passer de projet en projet, parce que c'est une histoire où la boîte grossit très très vite, et du coup tous les 3 à 6 mois, faut se réinventer sur le projet d'après.
Et là, vous avez quoi? Vous avez une équipe dans laquelle vous êtes un budget, vous êtes autonome, ou il y a une organisation plutôt pyramidale et tout le monde va dans la même direction?
Ouais, c'est relativement hiérarchique, Stripe, quand même.
Okay.
Et c'est un projet qui est surtout dans l'exécution, sur une bonne partie du problème. C'était une exécution précise sur un problème bien défini, plutôt que de l'exploration dans un espace de problème très très mal défini.
Okay.
Et sur la partie méthode de paiement, paiement de Stripe vers les marchands, ce qu'on appelait les payouts, gestion de la fraude, c'était des problèmes où on savait ce qu'il fallait faire, fallait juste le faire beaucoup et très vite, quoi. Plutôt que, on va partir d'une feuille blanche et se demander de quel filtre les utilisateurs vont avoir besoin demain. C'est des problèmes très différents de d'autres boîtes.
Et tu te balades partout en Europe, ou c'est quoi le...
Non, on est basé à San Francisco.
On a
démarré là-bas, on est resté là-bas de 2014 à 2019. J'ai quitté Stripe en 2019. Et ouais, pas mal de balades en Europe pour rencontrer les équipes et les différents bureaux qui ouvrent au fur et à mesure. Et puis des utilisateurs qui étaient basés ici sur certains gros deals où les méthodes de paiement étaient un peu centrales. La couverture de méthodes de paiement était centrale dans la négociation. Mais basé à San Francisco. Voilà.
Ok. Et t'as un regard également sur ce qui se passe en Europe sur la partie paiement, parce que finalement il y a pas mal de sujets pas mal de boîtes qui se lancent sur ces sujets-là. On parlait de checkout, il y a l'équipe que j'aime beaucoup de Process Out aussi. Je sais pas si t'avais regardé ces trucs-là.
On les avait rencontrés à l'époque, Process Out. Ouais.
Donc, et puis je sais qu'ils étaient très proches de Stripe aussi. Donc, vous êtes plutôt dans un mood make or buy ou un combo des deux. C'est quoi ton
L'ADN de Stripe là-dessus. Je pense qu'il y a une sur la partie qui est bien définie. Il y avait un ADN assez make, je pense, parce que c'était comme il y a une intransigeance sur la qualité de l'expérience, en particulier la qualité de l'API, récupérer une stack de paiement qui est parfois très complexe, qui est parfois un peu vétuste, c'était toujours un gros risque.
Ouais.
Mais cela dit, sur la long tail, le partner avait beaucoup de sens aussi. Donc la couverture pour passer de 3 à 16 méthodes de paiement, c'est des partenariats. C'est des partenariats bien intégrés, en marque très très blanche. Hein, où on essaye vraiment de raboter au maximum ce qui fait qu'un utilisateur va avoir l'impression de sauter d'un produit à un autre, mais il n'y avait pas du tout d'amour propre par rapport à l'idée de plutôt faire un partenariat, surtout sur c'est des histoires de logo parfois. C'est oui, il faut couvrir cette méthode de paiement, mais en pourcentage des volumes, ça ne va pas représenter une masse énorme. C'est plutôt est-ce que dans l'appel d'offres, on est capable de cocher la case oui ou non, quoi.
D'accord. Et qu'est-ce que tu y apprends? C'est quoi les trois enseignements un peu structurants? Toi, en tant que manager, entrepreneur, c'est quoi les où tu dis, ah ouais, là, j'ai vraiment level up dans cette expérience Stripe?
En 4 ans et demi là-bas, il y a beaucoup de choses. En résumé, en 3, c'est peut-être difficile, mais je pense que comprendre vraiment ce que c'est que ce que les gens appelaient l'hypercroissance ou la croissance très forte et la traction de l'intérieur, et savoir pouvoir l'identifier sans nécessairement la définir, ça c'était vraiment la première leçon. C'était comprendre que 80 ou 100% de croissance annuelle, ça veut dire qu'il faut tous les 6 mois tout revoir. L'organisation, la manière dont on fonctionne, les problèmes qu'on pensait avoir résolus, qui répètent à nouveau, et que c'est normal, et que c'est en fait un niveau de chaos qui est juste une baseline de chaos, qu'il faut l'accepter et faire avec plutôt que de se taper la tête.
Mais ça, t'en es acteur ou tu le subis et tu le comprends finalement?
Non, bah on en est tous co-acteurs, mais c'est passer d'une équipe de une personne à manager d'une équipe de 8 personnes très rapidement, et puis ensuite à responsable d'un projet où il y a 110 personnes, et puis en fait on n'a pas beaucoup le temps de se préparer, on va apprendre sur le tas. Ça, c'est des choses qui sont, c'est des opportunités qui se présentent parce que le business est dans un écosystème et avec une vitesse de fond qui est énorme, quoi. Et je pense que la leçon, c'est pour ceux qui hésitent entre des boîtes différentes, je pense que le taux de croissance, c'est vraiment une façon de se dire que quel que soit le boulot qu'on a au début, il va changer plus vite, plus rapidement, et que les opportunités seront créées par ça.
Okay.
Ça, c'est peut-être la première leçon. La deuxième, c'est vraiment la culture de l'écrit.
Ah ouais?
Ouais, Stripe était vraiment un peu en pointe dans la notion qu'on pouvait traiter beaucoup de choses par écrit et que de prendre des notes ex post de décisions qui avaient été prises, ça avait énormément de valeur. Donc il y avait une culture des résumés de réunions très forte et une culture de l'email. Alors c'est des outils qui ont changé depuis, hein. Stripe c'est une boîte de 2009, c'est pas une boîte de 2019, mais il y avait la possibilité de s'inscrire à n'importe quelle liste d'email en interne et de voir circuler l'information sur n'importe quel sujet, puisqu'en fait la règle c'était en interne, on email pas des personnes, on email des listes. Donc okay. Quand moi j'avais un sujet sur les paiements, c'était paiement at stripe.com.
Ah ouais, voilà. Et donc ça se permet pas, ça envoyait à X personnes
Qui avaient décidé de s'inscrire à ces listes-là et qui voulaient savoir de façon un peu tangentielle ce qui se passait dans tel ou tel coin de la boîte.
Ah ouais.
Et la valeur que ça pouvait avoir de délester les personnes du besoin d'aller dans une réunion, de sentir que l'information était plus en fait un outil de pouvoir en interne et que on était plutôt valorisé quand on la faisait circuler que quand on la retenait ou qu'on la monnayait. De comprendre aussi l'importance qui était accordée à la précision des mots, à la capacité à s'exprimer clairement à l'écrit sur les décisions à prendre ou prises, etc. Ça, c'est des choses que moi, on n'avait pas du tout mis en place dans notre boîte avant, où on était, je pense, un peu plus folklore.
Ouais. Ouais. Et puis surtout, on avance de phase, quoi. Enfin, je trouve que même si c'est pas un médium qui est l'email.
Ouais.
C'est quand même assez.
Ouais, bah, il y a un blog post, je crois qu'il date de 2013, hein, de Greg Brockman, qui est à l'époque le CTO de Stripe, qui explique pourquoi il pense que la transparence interne est hyper importante et pourquoi la transparence interne est bien portée par ce concept de email transparency, de casser le tabou en disant, bah, pourquoi est-ce qu'il n'est pas transparent par défaut cet email, ou pourquoi est-ce qu'il n'est pas transparent par défaut ce morceau d'info? Et qu'est-ce qui se passe si jamais on fait circuler l'info plus librement, quoi.
Ouais, donc voilà. Par rapport à Alan, c'est un truc qui fit parfaitement, quoi.
Ouais, carrément. Je pense que là-dessus, il y avait des convictions fortes de Charles et Jean-Charles assez tôt dans la création de la boîte et qui étaient inspirées, entre autres, de boîtes comme Stripe ou de boîtes qui avaient un peu expérimenté dans ce domaine-là. Et c'est vrai que ça, c'est une leçon extrêmement forte. Puis la troisième, moi, je pense que fondamentalement, la troisième, c'était cette histoire d'ambition de projet, quoi. Je pense que dans l'écosystème dans lequel on avait monté notre boîte avec Stan, ou en étant en Europe, on avait un peu sauté d'un projet à un autre, mais toujours avec parfois la peur de voir trop grand, de comprendre à quel point les fondateurs de Stripe étaient ambitieux dans la manière dont ils voulaient, avec le temps, avec l'effort que ça prendrait, mais changer en profondeur une bonne partie de la gestion des paiements sur Internet. Ça, c'était assez inspirant. Et je pense que dans la décision de rejoindre Alan, si on parle un peu de ça à un moment, c'était assez important de voir dans ce que les fondateurs racontaient qu'il y avait cette ambition
qui existait day one, c'est même quand t'es arrivé 150 personnes
pour Stripe.
Ouais. Qui était assumé, quoi. C'était pas de l'arrogance.
Non, enfin après tout ça. C'est un peu le côté schizophrène de tous les fondateurs, hein. C'est à la fois de l'hubris et en même temps un moteur incroyable. Mais je pense pas que c'était de l'arrogance sans fondement. C'était plutôt une ambition couplée à un optimisme sans limite.
Ouais.
Moi, c'est plutôt ça. C'est la partie vraiment optimiste de se dire, si les fondamentaux sont corrects et qu'on arrive à exécuter bien, il n'y a pas énormément de surprises à attendre sur ce que ça peut changer. Et encore une fois, je pense que ça, c'est pareil. C'est un business qui est fondamentalement différent du B2C pour le teen où, on sait pas qui va être à la mode, on sait pas à quelle vitesse la mode va changer et on peut pas contrôler ça. Sur ces boîtes B2B, c'est un échange de valeurs qui est plutôt clair, où il y a au fond un cahier des charges de ce qu'une expérience supérieure représente par rapport à une expérience inférieure, et où les clients les utilisateurs de Stripe étaient une nouvelle catégorie, quoi. Les développeurs prenaient implicitement le pouvoir dans des startups en décidant d'utiliser une API plutôt qu'une autre sur la base de considérations surtout techniques et pas financières. Donc finalement, le CFO était moins impliqué dans la décision de qui allait être utilisé comme moteur de paiement. Et je pense que c'était ça, quoi. C'est l'optimisme de se dire que, le développeur prenait une place centrale dans les décisions de ces entreprises qui allaient avoir elles-mêmes des fortes croissances et que donc, du coup, on allait pouvoir ne pas ralentir. Mais en arrivant à Stripe, il y avait déjà l'expression increase the GDP of the internet qui est quand même relativement ambitieux, je pense.
Et donc, au bout de 4 ans et demi, qu'est-ce qui te fait réfléchir à la suite? T'as fait le tour? C'est fatigant, c'est épuisant, ce rythme? Est-ce qu'il fit avec ta...
Ouais, y a plusieurs choses et il faut rester assez humble. Je pense que moi, j'avais l'impression que c'était une boîte qui était différente. Ouais, il y avait des personnages, des personnalités qui rentraient dans la boîte, qui étaient pas ceux qui étaient là quand on avait démarré. Des personnes qui avaient déjà 2 ou 3 boîtes de Silicon Valley dans leur bagage, des managers dans l'âme, des personnes à qui on donnait des pans entiers de la boîte pour les mettre au carré, les formater un peu. Donc ça, on sentait que c'était une tendance. Mais au fond, il y avait aussi 2 choses. Moi, j'avais travaillé sur un gros projet très très fatigant pendant à peu près 18 mois et qui avait un peu déconnecté le quotidien de ce que j'aimais faire. On a toujours les 3 choses. Ce qu'on aime bien faire, ce qu'on est fort à faire et ce que la boîte a envie qu'on fasse. Et il y avait un petit mésalignement entre ce que j'aimais faire et ce que la boîte me demandait. Il y avait aussi je pense pas que j'étais un manager de run idéal pour Stripe aussi, quoi. Donc dans la manière dont eux pouvaient décider de continuer à me donner des opportunités, il y avait peut-être aussi des façons dont ils disaient ce type de projet on veut bien, ce type de projet on veut moins bien. Et bon, j'ai pris 3 mois off après ce gros projet pour réfléchir. Et à la fin des 3 mois, je me suis dit que c'était...
T'as fait le tour.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et c'est quoi, ça ressemble à quoi la boîte à ce moment-là, au moment où tu quittes Stripe?
C'est à peu près 2200 personnes, peut-être pas, 2400 personnes, je sais pas.
Ouais, plus de x10 en termes de
c'est à peu près x10 en tout. Volume, nombre d'employés, nombre d'utilisateurs servis, pas tout à fait nombre de pays couverts, mais presque. Ça avait beaucoup, beaucoup changé. Et c'était impressionnant et unique et une énorme chance d'avoir pu participer
à
ça.
C'est extraordinaire.
C'est pas simplement une histoire de forte croissance. Je pense que c'est une des grosses histoires de forte croissance dans les 10 dernières années. Quoi.
Ouais. Ah, c'est extraordinaire. Et donc, tu reviens en Europe ou tu restes aux US? C'est quoi ton...
C'est assez flou. Les options sont ouvertes. Entre temps, j'ai rencontré une fille qui est depuis devenue ma femme, qui elle est californienne, donc dont les parents habitent à San Francisco. Voilà. Donc les attaches sont un peu floues, mais il se trouve que elle est assez francophile et que moi, ma famille avec les 3 petits frères qui se sont entre temps mariés, qui ont fait des enfants, la famille grandit vite et change vite. Donc je me dis que devenir l'oncle d'Amérique au sens littéral et métaphorique du terme, c'était peut-être pas non plus un but dans la vie. Et à la fin de 2019, ouais, ça correspond bien à un moment pour elle où elle veut changer de job et de carrière, pour moi où je me dis ok, on tourne la page Stripe et pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de refaire l'étape d'après
à
en
Paris.
France, voilà. Et en parallèle, il y avait des discussions qui commençaient sur ce que ça pouvait être à Paris, quoi.
Parce que là, tu dois être... donc on est en 2019, c'est ça?
Ouais, fin 2019, ouais.
Ouais, donc là, la tech à Paris a bien évolué, il y a quand même pas mal d'opportunités, donc t'arrives, tu te fais chasser comme c'est pas permis, c'est quoi le...
Ouais, j'ai les premières conversations avant de décider de rentrer en France, hein. Je pense que c'est ces conversations-là qui ont aussi accéléré les choses, et tout est assez imbriqué. Dana, ma copine à l'époque, on a des, enfin il y a des questions de calendrier de santé personnelle qui nous mettent aussi un peu dans des situations de doute sur le moment exact auquel il faut qu'on embraye. On décide de prendre pas mal de temps off aussi pour pouvoir continuer à faire connaissance parce que ça faisait longtemps mais pas si longtemps que ça. Mais je discute avec plusieurs boîtes à Paris et entre autres avec Jean-Charles avec qui j'avais déjà discuté depuis plusieurs années parce que quand je rentrais à Paris, on prenait un café ou un dîner ensemble.
Mais c'est quoi le connect? Comment vous... c'est quoi le départ? C'est des potes?
C'est des amis d'amis. C'est,
d'accord, ok.
Ouais, c'est un peu la mafia des ponts et chaussées où il y a plusieurs fondateurs de boîtes qui se connaissent entre eux, qui sont très proches. Et donc moi, j'avais pu être assez proche. Pour boucler la boucle, un des fondateurs de Ledger, Thomas France, était dans mon bureau au BCG quand on se disait qu'on n'allait peut-être pas non plus faire des carrières entières de consultant.
D'accord.
Donc voilà, donc, et Thomas a fait les ponts, il connaît également très bien Jean-Charles. Voilà.
D'accord, donc c'est cette mafia-là, très bien. Ouais. bon, c'est plutôt clair, et donc c'est assez naturel que tu discutes avec lui au moment où tu te poses des questions sur la suite.
Ouais, c'était pas évident au début parce que je pense que naturellement je me dis on va remonter un truc.
Ah ok.
C'était plutôt le projet, enfin la probabilité dominante. Et puis certaines conversations avec certaines boîtes démarrent. Finalement, moi je demande beaucoup de flexibilité, de calendrier. Je suis vraiment pas sûr de mon coup côté timing, donc ça me fait renoncer à d'autres entreprises super en France qui depuis ont bien marché aussi. Mais on se retrouve avec Jean-Charles sur un calendrier qui est
complètement
bien. Voilà. Okay. Et je démarre, timing parfait, le 2 mars 2020. En me disant, tiens, on va rentrer en France, tu verras, c'est simple, Dana, si tu veux, on rentre en Californie toutes les 6 semaines, c'est facile, le voyage entre San Francisco et Paris. Et la suite a été un peu différente.
Donc là, tu rentres en mars 2020, et ça ressemble à quoi, Alan, à ce moment-là?
Je pense que c'est à peu près 170 personnes, je me demande si c'est pas grosso modo les mêmes chiffres.
D'accord.
Une équipe produit de, je dirais, 30-35 ingénieurs, une petite demi-douzaine de PM, peut-être 4 ou 5 PM. Un peu plus de designers. Bon, les product designers chez Alan sont un peu d'une trempe particulière, donc c'est il y a beaucoup de têtes qui pensent produit, et même dans l'équipe d'Alan à l'origine, il y a beaucoup de têtes qui pensent produit. Un business surtout en France, mais déjà les débuts d'efforts pour les pays à venir qui seront l'Espagne et la Belgique. Et voilà, et une appli que les gens aiment déjà, une marque que les gens aiment déjà, un début de culture d'entreprise dont les gens parlent déjà et que les gens référencent déjà comme étant un peu différente du reste, et qui sont pas là par hasard, qui sont évidemment le fruit de travail et de volonté de Charles et Jean-Charles entre autres.
Et c'est quoi la première casquette qu'on te confie alors?
La première casquette, c'est celle de lead de la communauté des product managers. Donc, en fait, de bosser avec les product managers à développer l'équipe, développer ou revoir la méthode de développement produit de la boîte, qui est une certaine méthode qui correspondait bien à 4 ou 5 équipes et qui était peut-être un peu à risque à la vitesse à laquelle la boîte croissait, etc.
D'accord. Et donc là, tu t'appliques des recettes que tu avais apprises côté Stripe, il y a des choses
Oui, implicitement, mais c'est pas du copier-coller, parce que je pense qu'il y a des différences vraiment fondamentales dans la façon dont Alan veut opérer. Et en particulier, on parlait de la hiérarchie, on parlait de voilà la notion d'équipe stable à périmètre fixe qui ont besoin de justifier leur existence. Ça, c'était vraiment très important chez Stripe. En 2020, chez Alan, c'est une notion de groupe de gens qui savent faire des trucs et on les projette là où on en a besoin, au moment où on en a besoin. S'il faut faire du mobile, on fera du mobile. S'il faut faire du back-end, on fera du back-end. Et puis, on n'a pas d'équipe donnée, quoi. On bosse sur le sujet du moment. Et ça, c'est hyper important pour Alan. Ça contribue activement à la façon dont on recrute, on attire des personnes qui n'ont pas envie de rentrer dans une équipe fixe qui ensuite doit justifier son existence et son budget. Donc c'est hyper important de conserver ça. Je pense que ce que Stripe avait aidé à imaginer de mon côté, c'était la vitesse à laquelle les choses allaient changer. Donc pour des personnes dont c'était la première boîte à Alan, l'idée que x2 dans les tailles des équipes, ça allait casser ici, ici et ici, c'était pas forcément évident. Les gens se doutait bien que ça allait changer, mais avait peut-être pas de convictions fortes sur les endroits où ça allait péter en premier. Et là, j'avais l'impression qu'avec Stripe, j'avais peut-être des convictions un peu plus fortes sur le type de communication, le type de collaboration, le type d'interface entre les équipes qui allait peut-être souffrir plus vite.
D'accord. Et est-ce que t'es connecté aussi au business, au sens bien comprendre, enfin, je sais pas si t'interagis avec le board, est-ce que t'es loin de ces sujets-là, comment t'interagis avec Jean-Charles qui passe de pote à collaborateur, enfin
de pote à patron. Encore une fois, je pense que un des atouts de la transparence assez radicale quand elle est bien pratiquée, c'est que être loin du business, c'est assez dur, Alan, quoi. Ne pas comprendre combien de clients on a, qui sont les derniers avec lesquels on a eu des bonnes surprises, qui sont les derniers avec lesquels on a eu des mauvaises surprises, ce que tel CEO pense de tel feature ou ce que tel CEO pense de telle augmentation de prix, c'est faut se cacher pour que pour pas y avoir accès. Et ça, c'était énorme. Tout au début, en 2020, Jean-Charles me propose de bosser aussi sur des cas très concrets de sujets d'exploration où il fallait se poser la question de savoir si on allait investir plus ou pas. Est-ce qu'il fallait faire plus sur la fraude? Est-ce qu'il fallait faire plus sur ce qu'Alan pouvait faire côté médecin? Comment on bosse avec le corps médical? Et donc très très rapidement, on est exposé aux problématiques, aux différentes problématiques business. Et puis ensuite, j'ai travaillé sur le sujet de la prévoyance, qui est hyper importante, qui est hyper importante pour l'offre d'Alan. Voilà, il n'y a pas de notion de OK, maintenant t'es manager des product managers. Ouais. Ça c'est jamais un job à plein temps et ça n'est toujours pas aujourd'hui à Alan pour qui que ce soit, je pense. C'est plutôt, bon, t'as un pied dans un sujet concret sur lequel tu es l'auteur du brief final, du résumé de ce qu'on pense devoir faire ou pas. Et puis après, tu coaches des personnes qui sont elles-mêmes en pleine possession de leurs moyens et de leurs décisions sur des sujets donnés. Mais ça, c'était assez différent du rôle que j'avais pu avoir à la fin de mon expérience chez Stripe, où j'étais product lead sur une des 5 divisions de la boîte et où en fait les PM que je manageais dépendaient de moi pour la direction et il y avait finalement une abstraction par niveau hiérarchique des problèmes quoi.
Et ça, tu penses que c'est une typologie d'organisation qui est réplicable ou c'est un truc qui est propre finalement au fondateur, à Alan, et c'est un truc qui est voilà, c'est une culture de boîte qui est atypique, singulière et donc est-ce que tu penses que...
Ah ouais, c'est une culture de boîte qui est atypique, ça c'est sûr, c'est une culture de boîte qui est singulière. Est-ce que c'est réplicable? Oui, je pense que c'est réplicable plus que ce que les gens pensent.
Ah ouais,
et d'accord. Après, ce que ça demande pour que ça soit bien répliqué, c'est sans doute des efforts de tous les participants, y compris de ce que les boîtes peuvent appeler le management ou le leadership, parce que je pense qu'une des forces à Alan, c'est que les personnes qui poussent cette culture pratiquent ce qu'elles prêchent. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Il n'y a pas de décalage entre...
Et c'est pas un exemple... C'est pas de l'exemplarité, c'est ils font ce qu'ils pensent être.
Ouais, mais enfin, oui, c'est de l'exemplarité quoi. C'est-à-dire qu'il y a
toujours pas par effort.
Non, c'est assez naturel.
Ouais.
Et je pense que c'est vraiment là où, de ce que je comprends des échanges que Charles et Jean-Charles ont eu au tout début de la boîte, il y a eu beaucoup de temps passé à vraiment se dire ok, quel genre de boîte et quel genre de quotidien on veut pour Charles et Jean-Charles, naturellement, ils opèrent de la façon dont ils ont ensuite décrit la culture d'Alan. Je pense qu'ils l'ont écrite et formalisée quand ils étaient peut-être 6 ou 7, hein, donc c'est pas non plus tout sorti de leur brillant cerveau au premier jour, mais ils ont assez rapidement cristallisé certains points importants, ils se les sont appliqués et ils ont pas changé de mode opératoire depuis.
Et côté talent, là, t'as ameuté des gens de ton réseau, comment est-ce que t'as fait grandir le vivier de talent chez Alan?
Il y a un certain nombre de personnes avec qui j'ai pu discuter très tôt dans leur processus de réflexion sur l'étape suivante. Et ça a pu conclure à certaines arrivées chez Alan. Ça n'a pas non plus été un effort de recrutement directement dans les viviers d'autres boîtes. Entre autres parce que je pense que un product manager américain basé à San Francisco qui n'a pas décidé de venir en France, c'est pas nécessairement une cible pour ouais. Alan. Donc il y a aussi cette particularité géographique où j'ai changé d'écosystème quand même. L'ambition d'Alan est assez européenne, si ce n'est mondiale, mais pour l'instant, l'équipe, elle est surtout basée en Europe. Ça, c'est une réalité. Mais cela dit, il y a beaucoup de Français qui ont passé une partie de leur vie à San Francisco et qui sont intéressés de revenir. C'était le cas du premier product manager chez Alan, ou un dernier premier, enfin, Thomas, qui avait travaillé à San Francisco et à Londres aussi. Donc ça, c'est un axe. Je pense que la participation au processus de recrutement clé, ça a été un rôle que j'ai assez volontiers joué, le fait de pouvoir à la fois interviewer mais aussi faire la partie post-interview, la partie de selling, répondre aux questions des personnes qui je pense plus elles ont eu d'autres expériences dans des boîtes similaires, plus elles ont une liste de questions assez précises sur la façon dont ça fonctionne vraiment par rapport à ce que les blogs peuvent raconter, sur la manière dont elles auront vraiment des responsabilités par rapport à ce que la théorie peut expliquer. Donc ça a été je pense utile. Et puis dans le développement des équipes elles-mêmes, moi j'ai beaucoup appris à Stripe de la valeur de former et de faire grandir en interne, parce que je pense qu'il y a des recrutements qui sont très compliqués, entre autres parce que la culture est assez atypique et donc assez exigeante, et qu'on a beaucoup à gagner à parier sur des personnes qui ont montré qu'elles étaient avides d'opérer d'une certaine façon et à qui on peut ensuite apprendre pas mal de choses. Enfin, je veux dire, personne ici ne fait fondamentalement de la physique nucléaire. Il y a des choses qui sont quand même qu'on peut apprendre. Voilà.
D'accord. Et si on regarde un peu le futur, mm-hmm. on voit un peu les enjeux. Parce que là, t'as confié d'autres casquettes avec, j'imagine, encore plus de responsabilités, même si tu partages ton temps avec le fait d'empowerer d'autres personnes pour qu'ils fassent leur job. C'est quoi les deux, trois enjeux structurants, toi, en tant que manager, dans la trajectoire de la boîte qui vise la rentabilité dans les prochaines années? Enfin, tu vois, c'est quoi un peu tes défis? Parce que t'as un gros sujet dans ton assiette.
Ouais. Je pense que on a les défis de notre succès, donc les growth pains assez classiques et auxquels il faut qu'on apporte vraiment une réponse fondamentalement Alan. Donc là-dedans, je mets le sujet de la prise de décision dans une entreprise qui grandit et qui se complexifie, non seulement en taille d'équipe, mais en maturité de la ligne de produits. Quand on a des produits uniques, monolithiques, qu'on vend à une audience simple et bien segmentée, il y a plein de problèmes de coordination qui sont pas faciles à percevoir. Et quand on commence à vendre dans plusieurs géographies, des gammes de produits différentes, on a tous les problèmes de cette dispersion, collaboration, coordination qui apparaissent. Et ça, c'est un gros défi pour nous.
D'accord. Donc, ce que tu dis, c'est quoi? C'est que la culture, finalement, de l'écrit, de la transparence, a ses limites, et qu'à un moment, pour prendre des décisions, il faut plus aller là-dedans, ou c'est autre chose?
Non, je pense que la culture de, pour moi, la méthode de l'écrit, la méthode, c'est des méthodes, c'est des moyens pour arriver à des fins. Les fins, c'est mettre des personnes très autonomes dans des situations où elles sont capables de prendre rapidement des décisions avec le maximum d'informations possible et le bon niveau de prise de risque.
Ouais.
Et c'est de continuer à fournir un environnement propice pour ces personnes-là, pour qu'elles se sentent challengées, pour qu'elles aient envie de grandir, pour qu'elles aient envie de rester, pour qu'elles aient envie d'attaquer le problème compliqué d'après. Mais cet environnement-là, il change. Donc, quelqu'un qui pouvait filer avec deux ingénieurs, un designer pendant trois semaines, essayer 15 trucs il y a 3 ans, aujourd'hui, il va y avoir des nouvelles contraintes, du genre, on a promis telle chose à tel client, il y a tel truc qui marche pas comme prévu. Donc, simplement, arriver à garder de la place pour l'innovation et la vélocité dans un environnement qui a de plus en plus de contraintes, ça, c'est un problème qui demande une réponse. Mais la réponse, elle sera made in Alan, quoi. Enfin, on aura besoin de trouver quelque chose qui s'aligne encore avec nos principes opératoires, ce que Alan a appelé les leadership principles, et les principes de notre produit, ce qu'on appelle la qualité produit, comment on la reconnaît, comment on la définit. Et c'est des choses auxquelles on restera fidèle. On trouvera une solution qui match avec ça. Mais c'est encore, je dirais que ça, c'est encore en cours, quoi. Et ça sera jamais vraiment fini. Je pense que ça représentera toujours un effort de d'ajustement. Un autre gros problème, c'est, fondamentalement, on n'a pas encore complété ce changement de rôle auprès de nos utilisateurs, de rembourseur des frais médicaux à partenaire de santé.
D'accord.
Et ce rôle-là, il sera rempli quand les gens utiliseront l'appli Alan beaucoup plus souvent avant d'avoir un pépin que quand ils en ont un, beaucoup plus régulièrement, en parleront autour d'eux, non pas comme Alan, ça rembourse très vite, mais plutôt telle et telle décision que j'ai prise dans ma vie et qui en ont amélioré le quotidien et que j'ai prise en partie grâce à Alan. Voilà. Donc ce chemin-là, il est encore long.
Ça, c'est la cible.
Ça, c'est vraiment la cible. Ouais. Et c'est ce qui est à la fois... c'est un peu, je retrouve la notion d'ambition et d'optimisme que j'avais pu voir chez Stripe, quoi. C'est une cible extrêmement ambitieuse, mais c'est comme ça que le futur doit avoir lieu. C'est assez évident que si on propose à des gens une solution où leur partenaire de santé est dans leur poche, leur permet d'éviter une complexité dans la prise de décision, une perte d'information, une reprise de une prise de sang supplémentaire parce que l'info a été perdue ou a pas été stockée bon endroit. Enfin, toutes les inefficacités qu'on connaît tous et dont on parle tous, même dans un système comme en France où on a déjà un système assez performant et quand même extraordinaire par rapport à plein d'autres pays. Ce futur-là, je pense que personne ne lui dit non. Donc c'est comment on y arrive, comment on y arrive vite, comment on y arrive avant les autres. Et comment
et avec une réalité économique qui fonctionne.
Et avec une réalité économique qui fonctionne, exactement. En particulier, comment est-ce qu'on commence à être dans vu comme un investissement et pas simplement comme un poste de coût pour certaines entreprises avec lesquelles on travaille. Je pense que Aujourd'hui, on est dans la ligne assureur santé complémentaire. Et en fait, il y a plein de lignes dans lesquelles on aimerait être présent comme partenaire pour fournir à ses employés une expérience supérieure dans un marché qui va être assez concurrentiel sur le côté travail. Donc ça, c'est intéressant aussi. Je pense que les employeurs continuent à se poser la question de qu'est-ce qui fait qu'un employé va venir et rester chez moi. On sait depuis le Covid que c'est pas simplement un bon salaire. On sait, voilà. Donc tout cet élargissement de bénéfices ou d'offres employées qui est un bon axe stratégique. Et puis, à quel point est-ce que cette promesse-là, elle est réplicable de pays en pays, sachant que les infrastructures locales de santé sont assez différentes? Quelles sont les parties qu'on recrée localement? Quelles sont les parties qu'on plateformise et qui permettent d'accélérer, d'augmenter l'efficacité globale du système malade, quoi.
Voilà. Ouais, c'est super. En tout cas, c'est très intelligible je pense, comme défi, avec un sujet qui est particulier, qui est quand même la santé des la santé, c'est très touchy, quoi. C'est comme l'argent, tu me diras. Stripe, je pense, de la même manière, en fait, l'argent est un sujet extrêmement.
Mais c'est ça qui est intéressant pour moi, c'est que quand on part de la partie la plus touchy, la plus sensible, on crée avec ses utilisateurs une relation de confiance qui peut être ensuite leveragée pour plein d'autres choses. Stripe a aujourd'hui, je pense qu'ils ont une dizaine de produits qui sont pas tous directement liés au paiement, mais qui sont tous un peu dans le command center du business de la boîte avec laquelle ils bossent. Parce que ils ont commencé par l'argent. Quand on sait bien faire l'argent, c'est plus facile de donner les clés du camion pour autre chose.
Ouais.
Alan, la vision de partenaire santé, je pense qu'elle existe depuis le début, mais le vecteur de l'assureur santé, il est utile et efficace parce que il nous met en possession de données très sensibles, de flux monétaires, d'un statut régulatoire qui nous force à être sérieux assez tôt dans notre histoire. Et cette marque Alan, elle porte déjà aujourd'hui en elle les fruits de cette confiance.
Et elle va se faire par essai-erreur, donc par lancer des Alan Babies, des expérimentations en disant, ok, est-ce qu'on peut aller jusque-là sur tel type de population, etc. Ou vous avez déjà une idée très claire de, ok, sur les services, ça va être ça et ça qu'il faut développer?
C'est une réponse pas de Normand, mais un peu débrayable que je vais te faire. Je pense qu'il y a des sujets où c'est assez clair qu'il faut aller dans cette direction et peut-être que l'implémentation exacte, c'est encore un point d'interrogation. Pour moi, l'exemple de la santé mentale, c'est assez clairement dans cette catégorie-là. Est-ce que Alan va être plus impliqué dans la santé mentale dans 5 ans qu'aujourd'hui? La réponse est oui, parce que je pense que
c'est structurant.
C'est structurant, voilà. Et après, sur certains autres points, est-ce que c'est plus intéressant de faire de la prévention sur le sujet de la nutrition ou du sommeil, dans quel ordre est-ce qu'il faut qu'on s'y attaque? Là, je pense qu'on n'a pas encore toutes les réponses. On a des points de contact avec nos utilisateurs, on a de la confiance et on a une expérience dans le développement de produits qui nous permet de créer des expériences auxquelles on pense que les gens peuvent être assez attachés. Donc c'est ça qu'on va essayer d'utiliser. Mais l'idée de essai-erreur, là où je mettrais simplement un petit asterisque, c'est qu'on va faire, oui, on va continuer à expérimenter, il y a des choses qu'on lancera et qui marcheront peut-être pas, mais on va pas s'amuser avec les données des gens d'une manière qui pourrait ne pas être ok. Donc il y a un gros gradient de prise de risque entre avec quelles données on joue, avec quelle partie du parcours de soins est-ce qu'on est en train d'interagir, et à l'autre bout du spectre, quelle attitude on veut avoir par rapport à des produits nouveaux. Quand on n'a pas de données, est-ce qu'on est capable de mener avec son intuition et d'essayer des choses pour garder de la vitesse? Ouais. Ça, je pense qu'on gardera et on sera robuste sur les parties qui sont non négociables de notre produit.
Et donc, toi, si on reboucle la boucle, parce que finalement, l'idée de monter un truc, ça t'aurait pas déplu en 2019. Tu reviens en France. Alors, je sais pas où en est ta femme, si elle a, où est-ce qu'elle a trouvé.
Elle est en France.
Elle est en France, c'est parfait. Tout ce qui se passe dans l'écosystème, ça t'a conforté dans le choix de. Ok, Alan, c'est la venture dans laquelle je vais m'inscrire sur les 5 prochaines années, parce que tu as toutes ces casquettes et parce que je pense que la mission est plus que noble, elle fait du sens et je pense qu'il y a une opportunité de marché aussi à construire cet opérateur. Où est-ce que tu en es où est-ce que tu en es, toi?
L'histoire parfaitement, tu sais qu'on recrute. Hein.
Pourquoi pas Et où est-ce que tu en es, toi, dans ta vie, tu vois, en tant qu'entrepreneur, manager? Est-ce que c'est des...
Ouais.
Est-ce que...
Ouais, c'est une super bonne question. C'est une question un peu permanente. Je pense que Encore une fois, c'est ce que j'aime faire, ce que je pense être bon à faire, est-ce que la boîte me demande de faire, à quel point est-ce que c'est aligné, quelle tension t'es prêt à prendre pour un gain plus élevé ou plus global. Moi, je me plais beaucoup et je reste extrêmement intéressé par des sujets qui sont pas traités par Alan ou que Alan n'aura pas vocation à traiter dans le court terme. Il y a beaucoup de choses à faire pour que... Je pense que la veine dans laquelle je me suis lancé, dans laquelle je me vois bien encore pendant les 15-20 ans à venir, c'est comment est-ce que les nouvelles technologies nous aident à faire les choses un peu plus intelligemment, qui n'étaient pas possibles avant, sans faire trop de bêtises à côté, parce qu'on n'avait pas pensé aux conséquences d'ordre 2. Et voilà, et s'amuser au quotidien, apprendre au quotidien, et travailler avec des personnes où on a l'impression qu'on passe la plupart de son temps à résoudre les problèmes et pas à faire le para... le paraboulot quoi, le politique, la gestion de d'ego ou tout ça. Donc Alan pour l'instant c'est un endroit génial. Je pense que c'est une réponse, la réponse à ta question elle s'écrira longtemps quoi. Franchement j'en sais rien parce que pour moi y a des choses tellement ambitieuses et importantes à faire avec Alan qui vont prendre du temps et c'est absolument nécessaire qu'une boîte comme Alan se donne le temps et l'ambition de le faire bien. Et après, les parcours individuels des personnes qui contribuent à cette histoire-là peuvent super bien coller à un moment et super, et puis parfois pas autant coller, quoi. D'avoir épousé une américaine, enfin, je vais dans le perso, hein, je sais pas si c'est le sujet de ton podcast, mais d'épouser quelqu'un qui a pas la même culture, pas la même nationalité et qui considère pas ton pays comme fondamentalement supérieur au sien, enfin, ça crée des défis ou des, ça pose des questions qui sont d'ordre zéro, quoi, là où je pense que le boulot est d'ordre un. Et pour l'instant, Alan n'a pas vocation à être aux États-Unis. Je donne un exemple théorique qui pourrait faire ça. Mais voilà, au début, c'est surtout moi, ce que j'ai l'impression d'avoir vécu à Alan depuis 2 ans et demi, c'est un peu la promesse remplie de travailler beaucoup sur les problèmes et assez peu sur les choses à côté des problèmes, travailler avec des personnes où l'ego prend pas beaucoup de place et on essaie juste de résoudre les trucs et travailler vers une mission qui est assez facile à expliquer. Ouais, tu disais noble, je pense que c'est un bon mot, oui, ça changera positivement le monde si on le fait bien. Il n'y a pas de doute. Je pense qu'il y a des industries où c'est peut-être un peu plus difficile de dire ça aussi clairement. Voilà, tout ça c'est la recette du truc et puis après l'avenir on verra. Et de plus en plus en fait je me rends compte, on en parlait au tout début du podcast sur ce qui fait que la Silicon Valley est unique, c'est que les gens ont des parcours à plusieurs couches, les gens se sont déjà rencontrés professionnellement 4 ou 5 fois. Je vois des gens qui ont travaillé chez Stripe, qui ont quitté Stripe, qui retournent chez Stripe et qui expliquent pourquoi ça marchait à ce moment-là. Et je pense qu'on a plutôt intérêt à encourager cette fluidité.
Ah, c'est sûr.
Qu'à la prévenir ou à essayer de l'empêcher. Et donc, je souhaite, si ce n'est pour moi ou pour d'autres, que Alan ait des expériences de personnes qui viennent, qui repartent, qui reviennent.
Oui, et puis même beaucoup de soutien de ceux qui partent. C'est que j'ai l'impression que dans la mafia Alan, les gens qui ont vocation à lancer des projets, lancer des startups, sont plus encouragés à le faire avec l'idée même de financièrement être aidé par les Alan Boys and Girls plutôt que de garder la valeur pour en interne. Donc c'est vraiment un signal très fort de maturité.
Ouais, et super vertueux parce que qui est-ce qu'on attire si on fait pas ça en fait. Je pense qu'il faut toujours se poser la question les gens sont intelligents, ils font des choix intelligents sur la base de leurs contraintes et de leurs aspirations. Donc ce système très ouvert à mon avis est le plus vertueux et il est vraiment encore une fois vécu à tous les échelons. Il n'y a pas vraiment d'échelons dans la boîte, mais je pense que Charles et Jean-Charles le représentent très bien. Je pense que le pledge que Alan avait proposé il y a quelques années de période de préavis réduite plutôt que de période de préavis maintenue à fond jusqu'au 3e mois, coûte que coûte. Tout ce qui peut créer plus de fluidité, donc plus d'adéquation entre ce que les gens veulent faire et ce que les gens sont capables de faire dans un monde qui bouge de plus en plus vite.
Voilà. Ouais. Donc finalement, l'absence de contraintes force l'alignement avec soi-même. Donc
ça c'est après c'est d'ordre personnel, c'est important aussi. Je pense que c'est clair que c'est pas c'est un environnement où il y a beaucoup beaucoup d'options et donc en fait il faut creuser assez profond pour vraiment savoir ce qu'on veut parce que on est dans une phase de développement en France en particulier, mais dans l'écosystème global où il y a beaucoup de choses à faire quoi.
Ouais. Et puis moi je suis toujours un peu épaté par cette nouvelle forme d'organisation, parce qu'en fait, ça fonctionne quand t'es 10, tu t'arrives à bien imaginer sur 100, à 500, tu dis où est le début du chaos, et à 1000, tu dis mais non, c'est pas possible. Ouais. Et c'est ce truc-là, tu vois, que t'inspires Day One, que toi, t'as embrassé sur la bouche dès ton arrivée, et je trouve ça assez incroyable, même si t'as vécu une XP de scale-up aux US qui t'a permis d'avoir d'être en bonne en bonne préparation. Je trouve que c'est assez ouais, déstabilisant, et moi je suis assez admiratif du de continuer à focus sur l'objectif qui reste finalement de devenir cet opérateur. Donc ça va être intéressant de voir comment cette organisation elle va aussi grandir dans les années à venir, quoi.
Ouais, là, je pense qu'on est en production avec une expérience N égale 1. Moi, je suis sûr, quand je suis arrivé, j'étais pas clair sur si la méthode allait passer le mur du son. Je me disais, là, 200 personnes, il y a des trucs qui m'ont vraiment cassé. On a clairement passé le mur du son. Après, il y a le mur de la chaleur. Je sais pas où il est. Je sais pas si on va l'atteindre. Je sais pas si on va l'atteindre vite. Je pense qu'on a déjà fait un certain nombre de corrections, quoi. C'est ça aussi. Il faut pas non plus voir la méthode Alan comme un truc qui a été écrit dans les tables de la loi il y a 6 ans, qui a pas bougé. Il y a vraiment des choix, des révisions importantes qui sont faites assez régulièrement, qui sont faites avec une barrière à l'entrée assez forte, parce qu'il faut pas non plus changer les règles tout le temps, sinon on crée un écosystème dans lequel les gens perdent un peu la clarté sur les principes fondateurs, mais c'est le Alan d'il y a 6 ans n'existe plus, et personne ne souhaite son retour. D'ailleurs, je pense que Jean-Charles est un des premiers dans les conversations à brandir le fait que, mais attendez, heureusement qu'on n'est plus le Alan d'il y a 6 ans, parce que le Alan d'il y a 6 ans, il y avait à peine quelques clients, pas vraiment de clarté sur l'horizon de profitabilité financière, et énormément de problèmes à recruter ou à avoir une marque qui nous permette d'être convaincant par rapport aux autres options, quoi. C'est d'arriver à toujours naviguer entre ce qui fait le succès des boîtes à leur début, qui est un peu magique, où c'est une combinaison de clarté de vision, vitesse d'exécution, les premières personnes qui font vraiment la différence. Je pense que chez Stripe comme chez Alan, dans les 10 premiers employés, il y a des personnes qui ont autant contribué à la culture que ce que les fondateurs ont pu faire.
C'est sûr.
C'est vraiment important. Et ensuite, la capacité à muer et à garder une adéquation entre les personnes qui font le boulot et les besoins de la boîte à ce moment-là, au fur et à mesure.
Ouais. Ouais, j'ai l'impression que vraiment l'organisation est plus forte que les individus, là. Tu en arrives à ce niveau de, quand t'investis dans une boîte et que c'est ton obsession de dire, OK, bien sûr que j'ai des individus très forts et c'est pour ça que tu back des fondateurs et qu'ils arrivent à construire une organisation qui, organiquement devient robuste, solide, se repense, et scale. Et là, tu te dis, ah ouais, il se passe quelque chose, quoi. Et j'ai l'impression
je pense que c'est vrai. Et finalement, c'est un peu la conséquence logique de ce qu'on apprend tous au fur et à mesure de carrière. Personne n'est indispensable. Enfin, il y a beaucoup de boîtes qui ont survécu au départ de personnes dont on pensait qu'elles étaient absolument clés. Et c'est tant mieux, parce que fondamentalement, c'est ce qui arrive à court, moyen ou long terme à peu près toutes les boîtes. Celles qui arrivent à être les plus résilientes, les plus antifragiles, je peux dire, qui vont utiliser, ont un avantage. Ouais.
Ouais. Bon, c'est top. Un grand merci, Gabriel, pour ce moment très sympa. On a parcouru, j'ai l'impression de te connaître, hein, on va partir en week-end ensemble. Et puis, je te dis longue vie à Alan, et puis à très vite.
Merci beaucoup.
Un grand merci pour votre écoute. J'espère comme moi que vous avez passé un agréable moment avec ce talent. N'hésitez pas à partager cet épisode de Startup Mafia autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ou une nouvelle saison. Ciao, ciao.